Donc Radio Apple Pie, toujours depuis les 8e rencontres cinéma et enfance. Nous accueillons Régène Amus, maître de conférence à l'université d'Evry, qui est dans le cadre des rencontres pour deux ateliers, l'un sur le montage, l'autre sur le cadrage. Et vous avez par ailleurs beaucoup travaillé sur la question des effets spéciaux au cinéma. Vous avez récemment, c'est en 2004, me semble-t-il, écrit un livre sur la question. Vous avez publié divers articles dans des revues comme Simulacre, SFX, Cahiers du cinéma, autres. Donc on va reparler bien entendu des effets spéciaux d'ici quelques minutes, après quelques mots sur ces ateliers. Donc je crois que ce n'est pas la première fois que vous animez ces ateliers dans le...
Alors les ateliers cadrage et montage, c'est la première fois que je le fais ici aux rencontres, mais je les ai déjà fait un petit peu partout ailleurs. Je suis déjà venue plusieurs fois aux rencontres, en particulier pour des ateliers sur les effets spéciaux et des ateliers qui étaient liés la dernière fois au thème de la mer, puisque c'était le thème choisi il y a 2 ans. Donc cette année je suis venue pour faire les ateliers autour du cadrage et du montage. Donc l'atelier cadrage, l'objectif c'est de comprendre à quel point le choix d'un cadrage c'est essentiel pour transmettre ses idées en tant que réalisateur. On ne choisit pas un cadrage au hasard, donc pour montrer ça, en fait, il y a toute une partie où j'analyse des images avec les enfants et puis les intervenants, il n'y a pas que des enfants. Et une deuxième partie où on fait soi-même les images de manière à pouvoir bien comprendre. Mais quand on place la caméra à un endroit, tout de suite, ça va créer un sens particulier dans l'esprit du spectateur. En ce qui concerne l'atelier montage, l'objectif est un petit peu le même, à savoir faire comprendre à quel point le montage s'est construit, c'est pas du tout naturel, c'est quelque chose qui a plus d'un siècle, c'est un langage qui a plus d'un siècle, ce montage. Et pour comprendre ça, donc c'est pareil, je montre quelques images où j'explique un petit peu les raccords les plus importants et comment et pourquoi on en est arrivé là. Et puis à partir de là, je propose de remonter certaines séquences du cinéma de manière à changer complètement le sens des images et de la séquence.
Et vous avez un très bon retour de la part des enfants, comme j'ai pu le constater ce matin. D'enfants par ailleurs qui ne laissent absolument rien passer, puisqu'un exercice que vous leur faites faire, c'est celui du body double en fait. Vous leur expliquez que vous démystifiez Pretty Woman, enfin tout du moins Julia Roberts, en expliquant que les fameuses jambes de Pretty Woman ne sont pas les siennes, et en tant que telle, donc vous filmez trois parties d'un enfant, enfin de ce qui laisse supposer que c'est un unique enfant, alors qu'en fait trois enfants différents, qui l'un prêtera son visage, l'autre ses mains, l'autre ses pieds. Et on peut constater l'acuité du regard des enfants qui...
Tout à fait, parce que en fait l'exercice est une expérience qui est très très ancienne, puisqu'elle a été faite dans les années 20 en URSS. Et l'idée c'est d'arriver à faire l'image d'un homme ou d'une femme parfaite. Donc effectivement c'est pas facile. Alors pour ce faire, on prend le visage d'un premier enfant, les mains d'un deuxième enfant et les jambes d'un troisième enfant. Et là où c'est un petit peu difficile, c'est que tout d'un coup, si on voit en haut, au niveau du cou du premier enfant, un pull rouge, et si on voit au niveau des mains un pull bleu, effectivement les enfants le remarquent tout de suite. Donc à ce niveau-là, c'est pas toujours facile, puisque pour que l'exercice soit parfait, il faudrait que tout le monde soit habillé de la même manière, pour arriver à créer un corps, puisque grâce à ces trois plans différents, le montage va unifier et va donner l'impression au spectateur d'avoir un seul personnage, comme dans Pretty Woman, où on a l'impression que ses jambes lui appartiennent, ce qui n'est pas le cas.
Parlant d'expériences sur le montage qui ont été faites en URSS, vous faites allusion, sans le nommer, au fameux effet Kouleshov. Vous pouvez nous rappeler le principe?
Donc le principe est le suivant. Kouleshov a fait l'expérience suivante. Il a filmé un acteur qui avait une position neutre, bon, un regard dans le vide un petit peu. Cette image, il l'a copiée 3 fois. Et puis, première expérience, il colle le visage de l'acteur à un bol de soupe. Deuxième expérience, le même visage, mais cette fois-ci, on lui met à la suite une image d'un cercueil. Et troisième expérience, le visage de l'acteur, toujours le même, avec cette fois-ci un petit garçon. Et l'expérience prouve que les spectateurs trouvent dans le premier essai que l'acteur incarne la fin à perfection, trouvent dans le deuxième exemple que l'acteur est très triste, et dans le troisième exemple que l'acteur est très fier de son petit enfant. Or, ça, c'est dans l'esprit du spectateur, c'est ce que j'essaye de montrer. Le montage va créer un sens supplémentaire qui n'est ni dans la première image, puisqu'un acteur tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose, ni dans la deuxième image, puisque un bol de soupe tout seul, ça ne veut rien dire. C'est le fait de coller les deux images ensemble qui va créer ce sens dans l'esprit du spectateur. Et on a l'habitude, depuis notre plus tendre enfance, de comprendre ce langage. Et on ne le décode même plus, on n'y fait plus attention, ça nous semble naturel.
Ce qui peut, mais il peut également être très manipulateur. De fait.
Oui, alors c'est... bien sûr, on peut tout dire, tout faire dire au montage, aux images. J'entends beaucoup parler, de fait, avec les effets spéciaux, l'image numérique, tout le monde s'est dit, mais c'est terrible, on peut manipuler l'image, on peut la retoucher. Il n'y a absolument pas besoin de retouche numérique pour faire dire le contraire d'une image à la base. Il y a un bon petit montage et puis ça suffit. Donc c'est aussi ça, à faire comprendre aux enfants que le montage va créer un sens qui n'est pas dans l'image, mais qui vient vraiment de la collusion des deux images entre elles.
Et de fait, est-ce que vous qui avez beaucoup travaillé sur les effets spéciaux, est-ce qu'on pourrait... aller jusqu'à dire que le montage peut être un effet spécial dans la mesure où il permet de reconfigurer, voire de falsifier le réel.
Alors c'est intéressant parce que au tout début du cinéma, le montage était utilisé comme un effet spécial. Quand Méliès commence à faire ses premiers films, les premiers effets spéciaux qu'il va utiliser, c'est du montage. Donc pendant très très longtemps, on va retrouver encore des textes dans les années 15 où le montage, c'est le trucage numéro 1. Donc il va falloir tout un temps pour que le spectateur se dise mais non, le montage c'est pas que du trucage, c'est autre chose. Et aujourd'hui, le montage c'est plutôt la grammaire, la syntaxe du cinéma. Alors quant à savoir si le montage peut être considéré comme un effet spécial, d'un côté oui, parce qu'il peut produire un effet particulier sur le spectateur, ça c'est une évidence, mais de l'autre côté, si on commence à dire le montage c'est un effet spécial, on peut se dire mais après tout le cinéma aussi est un effet spécial. Donc si tout est un effet, il n'y a plus rien de spécial.
Et alors justement, les effets spéciaux, quand avez-vous commencé à travailler dessus? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce domaine?
Alors, ce qui m'a amené à choisir le domaine, c'est j'ai toujours été passionnée par les films à effets spéciaux. Donc ça, c'est depuis toute petite, dès qu'il y a un monstre ou des choses comme ça, je regarde l'écran avec fascination. Donc j'ai toujours aimé ça. Quand j'ai commencé à faire des études en cinéma, donc à l'université, je me suis rendu compte très vite que les effets spéciaux étaient très peu étudiés. Autant on étudie beaucoup le montage, le cadrage, la lumière. Les effets spéciaux, c'est la part un peu ludique, en apparence en tout cas, du cinéma. Et donc c'est une part qui est un petit peu mise de côté. Donc très vite, je me suis intéressée aux effets spéciaux. Donc déjà, avec les effets numériques, j'ai commencé à travailler sur le numérique pour une maîtrise à l'époque et un DEA. Et puis après, je me suis intéressée à la question des effets spéciaux des origines du cinéma et même un petit peu avant jusqu'à nos jours. Là, c'était pour une thèse qui réfléchissait sur les liens entre la technique d'un côté et l'esthétique de l'autre.
C'est-à-dire, avant d'en arriver au numérique, quand vous avez commencé vos travaux à l'époque, même les effets spéciaux, qu'on qualifiera par facilité de classique, comme le travail de Willis O'Brien sur King Kong, la Dynamation de Ray Harryhausen, c'était quelque chose qui n'était pas étudié.
Non, et d'ailleurs, ça l'est quasiment toujours pas.
Toujours pas.
C'est étudié du côté de la technique, c'est-à-dire que vous allez trouver beaucoup d'ouvrages qui vont vous raconter la vie de Willis O'Brien, il y en a un très bon. Harryhausen qui a publié ses mémoires deux fois, mais d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est qu'Harryhausen publie ses mémoires en anglais, et il ne trouve aucun éditeur qui veuille les transcrire en français. Alors que, c'est vrai que pour les gens qui s'intéressent un petit peu aux effets spéciaux, c'est quand même un maître incontesté. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites. Alors en termes d'histoire et en termes de technique, il y a un petit peu, mais en termes de réflexion sur comment on utilise un effet spécial, quel effet ça produit, pourquoi, est-ce qu'il y a des réalisateurs, pourquoi certains réalisateurs travaillent sur les effets spéciaux et pas d'autres, toutes ces questions-là ne sont jamais posées, ou très peu posées. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il y a un trou à combler. La théorie du cinéma a beaucoup apporté sur le montage, puisque le montage c'est aussi une technique à la base, a beaucoup apporté sur les différentes esthétiques du montage, et la théorie du cinéma a vraiment laissé de côté, à mon sens, tout ce qui est du domaine d'esthétique d'effets spéciaux. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, et que j'essaye d'ailleurs de faire encore.
Et justement,
maintenant,
à votre sens, quels sont les réalisateurs qui ont le plus... penser, développer une réflexion sur ces effets spéciaux tout en les utilisant?
Alors, il y a des maîtres incontestés qui vont beaucoup parler d'effets spéciaux. Donc les plus classiques, ça va être évidemment Hitchcock, qui va beaucoup travailler. Tous ses films sont bourrés d'effets spéciaux, avec une très très grande finesse dans l'utilisation de l'effet. Un autre sens, évidemment Orson Welles, Cocteau aussi. Donc ces trois-là, je les cite pas au hasard. Ce sont aussi trois grands réalisateurs reconnus par la critique, parce que très souvent, on va dire les réalisateurs effets spéciaux sont des réalisateurs de série B, etc.
Qui sont, excusez-moi de vous couper, qui sont, je pense notamment Hitchcock, des personnes qui ont énormément pensé au montage aussi.
Exactement. Hitchcock, Orson Welles. De toute façon, dès qu'on commence à penser un petit peu la technique, c'est assez lié. Et donc pourquoi Cocteau, Hitchcock et Welles? Tout simplement parce que ces trois-là, non seulement ont pensé la question, mais en plus en ont parlé. Parce que pendant très longtemps, parler d'effets spéciaux, on ne le faisait pas. Je peux citer par exemple Méliès. Quand il va commencer à publier ses mémoires en 1907, donc Georges Méliès est quand même le père officiel des trucages et même un peu plus des effets spéciaux en France, Méliès va systématiquement refuser de parler des effets spéciaux en disant ça n'intéressera personne de toute façon. Et puis Méliès était quand même un prestidigitateur et les prestidigitateurs aiment bien garder le secret. Donc il y a aussi ce côté-là. Ce qui fait que pendant très longtemps, on n'a pas parlé d'effets spéciaux ou très peu. Et quand on a vraiment commencé dans les années 50-60 à avoir des réflexions sur la question, bon, on va retrouver les trois grandes figures clés. Et puis, en ce qui concerne plutôt la période actuelle, pour moi, un des réalisateurs qui pense le plus l'utilisation des effets spéciaux, en fait, il y en aurait deux, ça serait Cameron d'un côté, James Cameron d'un côté, et puis qui n'utilise pas des effets spéciaux n'importe comment, c'est très très pensé et c'est même intégré dans une réflexion sur le scénario, donc ça va très très loin son travail sur les effets spéciaux, et puis de l'autre côté Peter Jackson.
Oui. Et est-ce que justement le succès de King Kong par exemple, qui retravaille une histoire connue de tous tout en rendant hommage au film originel avec les techniques actuelles, donc le numérique, énormément, peut amener un regain d'intérêt pour les techniques utilisées dans l'original, en fait. Est-ce que le lien se fait pour le spectateur à la fois entre le film originel et son remake, mais pas seulement au niveau thématique, pas seulement au niveau narratif, mais aussi au niveau de la technique?
Au niveau de la technique. Alors ça, c'est intéressant, je vais y répondre la question sous deux angles. Le premier, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai cité Peter Jackson. Tout simplement parce que Peter Jackson est un des premiers à avoir dit le numérique, le tout numérique, ça suffit. Il faut plutôt travailler sur une complémentarité des techniques, il faut revenir à certaines anciennes techniques qui vont apporter beaucoup au numérique, et il faut travailler là-dessus. L'exemple dans King Kong, son King Kong, c'est peut-être un être de synthèse, mais à la base, c'est quand même un acteur bien vivant qui va interpréter le rôle et qui va vraiment incarner le personnage.
Et incarner déjà Gollum dans Le Seigneur des Anneaux.
Exactement. Donc, il y a chez Jackson, il y a ce mélange entre l'ancien, le nouveau, et comment on tire parti de tout ça, comment on réfléchit à l'intégration de manière à avancer dans l'histoire, le scénario, puisque le lien entre effets spéciaux et scénario est évidemment important.
Le deuxième point, la question était, est-ce que le spectateur va faire le lien vraiment entre les époques et les techniques?
Et donc pour répondre d'une deuxième façon à cette question, ce qui est intéressant, c'est que Peter Jackson va donc utiliser des images de synthèse avec donc un acteur vivant, mais en particulier, il va utiliser toute une mise en scène très ancienne, c'est-à-dire une alternance de plans larges et de plans plus rapprochés, qui reprend vraiment très précisément la mise en scène de King Kong. Il reprend aussi toute une esthétique de l'effet spécial, à savoir, dans King Kong, quand vous regardez bien, on est beaucoup sur le détournement d'attention, c'est-à-dire que King Kong apparaît, et puis au fond de l'image, on a des petits oiseaux qui volent. Bon, alors les petits oiseaux qui volent, ça permet tout simplement de détourner un petit peu le regard et pas forcément rester sur King Kong et voir les défauts de King Kong. Peter Jackson reprend exactement le principe à plusieurs reprises dans le plan. Donc ce que je pourrais dire, c'est que certes on prend des nouvelles techniques entre guillemets, mais on utilise une mise en scène très très ancienne. Donc le lien, à mon sens, se fait là. Quant à savoir si les spectateurs de Peter Jackson vont regarder et vont revoir l'ancien King Kong de 33.
Oui, non, bien sûr, mais en tous les cas, il y a une différence, voire même une filiation réelle entre les époques.
Très très net. À savoir que on oppose très souvent l'animation traditionnelle, image par image, et l'animation 3D. C'est pas du tout opposable. À savoir que c'est la continuité. On reprend des savoir-faire anciens. Et par exemple, quand Steven Spielberg fait Jurassic Park en 1993, à l'origine, il devait le faire en animation image par image traditionnelle. Il s'est rendu compte que l'image de synthèse était quand même au point. Et donc, ce qu'il va faire, c'est plutôt que de virer les personnes qu'il avait recrutées pour faire de l'animation traditionnelle, il va les prendre et il va les former tout simplement à l'outil. Donc, ce qui l'intéressait, c'était plutôt les compétences, les savoir-faire, le travail sur la mise en scène. Et puis finalement, l'outil à la fin n'avait plus autant d'importance que ça. Mmh.
Donc l'image de synthèse, bon là je me fais volontairement l'avocat du diable parce que c'est un débat quand même qui existe entre spectateurs, notamment amateurs de films de genre, en ce qui concerne l'arrivée du numérique, enfin l'arrivée du numérique visible, hein, s'entend, parce que le numérique sert aussi à produire de l'invisible, de la retouche, mais sur l'effet numérique n'aboutit pas forcément un appauvrissement de la mise en scène, parce que les reproches faits souvent sont la froideur du rendu, puisque à force de vouloir faire de plus en plus réaliste, on aboutit à quelque chose qui sonne moins réaliste que le travail artisanal entre guillemets à l'ancienne. Finalement, l'image de synthèse peut totalement s'intégrer à partir du moment où elle est inscrite dans un projet de mise en scène.
Oui, tout à fait. C'est toujours la question, la fin et les moyens, si je puis dire, à savoir une image de synthèse utilisée parce que le producteur impose l'image de synthèse et parce que c'est à la mode à la fin des années 90. Il y a toute une série de films comme ça où on sent bien que l'image de synthèse n'a absolument pas sa place, et y compris dans des films français. L'image de synthèse qui est pensée et utilisée et réfléchie dans n'importe quel film, elle trouvera sa place. Et la question de la froideur, c'est un faux problème.
Mais qui quand même dérange un petit peu le spectateur. Enfin, certains types de spectateurs, en fait. Et il y a quand même une volonté chez certains de faire un retour à ces techniques, enfin aux réalisations d'effets sur le plateau. Enfin, je pense en l'occurrence pour ne parler que des effets sanglants, par exemple. À l'époque où sortait le Zatoichi de Kitano, sortait Kill Bill. Tarantino réutilise volontairement les geysers sanglants, les poches de sang, technique Shaw Brothers et japonaise, tandis que Kitano, lui, à l'opposé, va utiliser du numérique pour les blessures, pour les jets sanglants, ce qui crée quand même un certain choc esthétique avec la série traditionnelle des Zatoichi des années 60.
Oui, mais justement, ce choc, il est revendiqué en tant que tel.
Oui, oui.
C'est vraiment... on sent à quel point c'est pas fait au hasard. Mmh. À savoir qu'en particulier pour cet exemple-là, le maquillage, c'est quand même le dernier lieu de résistance, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que, très souvent, ça coûte beaucoup moins cher de faire du sang sur le plateau plutôt que de rajouter ensuite, avoir des points de tracking, enfin, pour pouvoir suivre le visage qui bouge. Donc, très souvent, ça coûte beaucoup moins cher de le faire en direct. Donc, quand on décide de faire l'inverse, c'est-à-dire le refaire en post-production, que ça coûte cher, c'est qu'on a vraiment un projet derrière, c'est qu'on veut produire un effet sur le spectateur. Donc là, la question de l'effet spécial, elle se pose là, puisque le spectateur a effectivement une connaissance de l'image de synthèse traditionnelle, c'est-à-dire que les dinosaures, tout ça, c'est bon, ça y est, c'est intégré. Les figurants en synthèse, ça commence à être un petit peu intégré. Les personnages, Peter Jackson y travaille, à savoir que Gollum est là, King Kong est là, etc. Et il y a comme ça des petites sphères, donc le sang en particulier, c'est une sphère intéressante parce qu'on n'a pas du tout l'habitude. Et tout de suite, quand on dépasse nos repères et nos normes, ça pose une question, et forcément ce qui est intéressant, c'est que ça amène la réflexion. On se demande pourquoi. Donc là, il y a toute la question, est-ce qu'il a voulu déréaliser ou pas la question de la violence, etc., etc.
Et qu'est-ce que vous pensez de certains films que je qualifierais d'objets un petit peu mutants, volontairement hybrides, comme Immortel d'Enki Bilal, dans lequel des personnages de chair et d'os vont côtoyer des personnages animés? Donc, ce qui a déjà été fait, hein, bien sûr, Roger Rabbit, entre autres, là il s'agit de personnages entièrement numériques.
Qu'est-ce que j'en pense? Ben, finalement, vous avez un petit peu la réponse dans la question, à savoir que effectivement, c'est très très ancien. Même avant Roger Rabbit, vous pouvez remonter dans les dessins animés, Mary Poppins, etc.
Oui, c'est O'Brien d'ailleurs, avec Gertie le dinosaure, me semble-t-il.
Non, c'est pas O'Brien, mais c'est pas O'Brien.
C'est pas O'Brien.
Gertie le dinosaure, c'est Winston McKay. Mais bon, c'est pareil. On a tout ce travail d'intégration entre l'imaginaire et le réel qui est très très ancien. Donc souvent, quand on entend dire derrière votre question, c'est est-ce que c'est la fin? C'est pas ce que vous avez posé, mais ce qu'on entend
souvent
dire,
c'est
est-ce que c'est la fin des acteurs? Est-ce que... Bon. Le cinéma aime beaucoup à se faire peur. Ça, c'est depuis un siècle, le cinéma est toujours sur la brèche. Alors quand le son est arrivé, c'est la fin du cinéma. Chaplin en particulier a dit c'est une catastrophe, cette technique va tuer le cinéma. La couleur est arrivée, pareil. La télévision est arrivée, même chose. Donc là, le numérique, quand il a vraiment réussi à s'imposer au début des années 90, ça a été branle-bas de combat à Hollywood. Pas qu'à Hollywood, bien sûr, mais en particulier, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on l'intègre? Est-ce qu'on l'intègre pas? Est-ce que ça change le spectacle? Est-ce que ça change le cinéma? Et bon, et la question de l'acteur, elle est apparue petit à petit. Il y a des premiers essais d'acteurs virtuels dès les années 80. Vous avez une Marilyn Monroe, une rencontre entre Marilyn Monroe et Humphrey Bogart en 1987, dans des petits courts-métrages. Donc, bon, est-ce que c'est la fin de l'acteur numérique? Est-ce que c'est... Bonjour, la Suisse. Est-ce que c'est la fin d'un acteur, de l'acteur réel? Non, évidemment. C'est un outil supplémentaire d'expression qui permet aux cinéastes d'aller un peu plus loin dans certains axes. Mais des axes qui ont déjà été cherchés. Moi, quand j'avais commencé à travailler sur le numérique au sens large, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'était un discours très publicitaire qui visait à dire avec le numérique, maintenant tout est possible, comme si on avait attendu le numérique pour faire du cinéma. Avec le numérique, maintenant, il y a plus de frontières. Voilà, là, la question, il y a ne serait-ce qu'une frontière qui s'appelle l'argent. Et puis, on a beaucoup entendu parler, avec le numérique, dorénavant, c'est génial, tout est nouveau dans le numérique. Non, tout n'est pas nouveau. Encore une fois, on n'a pas attendu le numérique pour faire du cinéma, et il me semble plutôt que le numérique reprend des schémas très très anciens. Je ne dis pas que le numérique n'a rien inventé, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que très souvent, il y a eu un discours qui était de dire, il faut faire du numérique parce que c'est nouveau, c'est inédit, et les cinéastes, au début des années 90, ils y ont beaucoup cru. Ils se sont investis dedans à tort et à travers, souvent, avant de revenir un petit peu se poser, réfléchir et se dire, certes, on peut aller beaucoup plus loin sur certains points. Certes, on peut creuser, mais il y a beaucoup d'autres points où c'est pas l'outil miracle tel qu'on nous l'a vendu au début des années 90. Et je ne pense pas que ça le sera un jour. C'est pas tant une question de technique que question, finalement, est-ce que ça crée des nouvelles façons de raconter des histoires? Ça, c'est pas sûr.
Tout bonnement. Et est-ce qu'actuellement, parmi les films que vous avez pu voir, le numérique permet à certains réalisateurs de trouver de nouvelles formes pour raconter des histoires?
Alors, non. Très clairement, il me semble que quand on regarde, alors il y a deux types de cinéma, il va y avoir le cinéma hollywoodien, etc. Est-ce que le King Kong de Peter Jackson, par exemple, révolutionne complètement la façon de mettre en scène? Évidemment, non. Le numérique devient... encore une fois un joujou, quelque chose qu'on met en avant, mais ça ne révolutionne absolument pas la façon de faire les films. On va plutôt chercher la révolution. Aujourd'hui, l'innovation, la recherche, ça se trouve plutôt dans les clips, les publicités, les courts-métrages. Il y a aussi tout un travail, en particulier en France, des jeunes auteurs qui font avec De Francis Sous des choses assez intéressantes et qui poussent beaucoup plus loin. Ce qu'on peut voir au cinéma, c'est que très souvent, on se bride. À savoir, attention, il faut pas qu'on perde le spectateur, il faut pas aller trop loin, restons sages. Je vous citerai deux exemples. Le premier, ça serait Tron, en 1982. C'était un des premiers films, c'était pas le premier, mais c'était un des premiers films avec image de synthèse. C'était produit par Disney, ça a été un échec total. Et depuis ce jour, ça fait plus de 20 ans, mais depuis ce jour, les producteurs ont une trouille formidable, c'est de perdre le spectateur en allant trop loin. Donc très très souvent, on sent qu'on a des possibilités, mais attention, n'allons pas trop loin, on va perdre le spectateur. L'autre exemple, ça va être Toy Story. Quand Toy Story est sorti, donc il y a eu toute une publicité, c'est le premier film en image de synthèse. On se dit, bah tiens, ça va changer des choses, qu'est-ce que ça va changer, puisqu'on met en avant l'image de synthèse. Et on s'est rendu compte en regardant Toy Story que certes, il y avait de l'image de synthèse, mais en ce qui concerne la narration, la mise en scène,
c'était
les cadrages, c'est hyper classique. C'est on ne peut plus classique, à la limite avec l'image de synthèse, par moment, j'ai l'impression qu'on revient au niveau de la mise en scène, un tout petit peu en arrière, parce que surtout, faut pas perdre le spectateur, faut être carré. Donc l'innovation aujourd'hui, elle va vraiment être dans tout ce qui est court-métrage, essais, les clips, il y a beaucoup de choses, ne serait-ce qu'à voir le travail de Michel Gondry. C'est un peu tarte à la crème, mais c'est vrai qu'au niveau des techniques, de l'innovation, de la recherche, de comment je vais dire quelque chose, et là, il y a des vrais enjeux qui se passent. Donc dans 10 ou 20 ans, on retrouvera ça dans le cinéma.
Hollywoodien, ça sera intégré, digéré.
Exactement.
Nous vous remercions. Et puis juste une dernière question avant de finir. Quels ont été, dans votre enfance, vos premiers chocs, vos premières émotions devant des effets spéciaux, quoi?
Alors, il y en a eu deux. Le premier choc, ça a été Metropolis, de Fritz Lang. À une époque où j'étais au lycée, je m'intéressais absolument pas à ce genre de film. Donc et tout d'un coup, je vois ce film, noir et blanc, bourré d'effets spéciaux, avec une histoire... Ça a été un premier choc qui m'a fait penser, tiens, il y a peut-être autre chose que le cinéma qui m'intéressait à l'époque, c'est-à-dire vraiment le cinéma hollywoodien tous les samedis dans ma petite salle. Et le deuxième choc, ça a été Terminator 2. À savoir que c'est le premier film où je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a des choses qui sont en train de se changer, et en particulier pour l'image de synthèse, c'est un des rares films qui n'aurait pas été possible sans image de synthèse, où il y a un apport particulier. Donc ça serait Métropolis et T2.
Comme quoi l'histoire du cinéma continue à courir et il n'y a pas de fracture à ce niveau.
La fracture, c'est vraiment, encore une fois, plutôt commercial.
Réjeanne Amus, merci.
Merci.